Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nique ta métaphore, dans lequel nous parlerons de la fin. La fin du monde, hein, histoire d'être bien dans l'air du temps, une atmosphère somme toute légère faite d'insouciance et de lendemain qui chante. Nous sommes ravis de vous retrouver après le dernier épisode consacré à l'amour. Passer directement d'une émission sur l'amour à une autre sur la fin du monde, c'est comment dire ? Un clin d'œil malicieux au destin ? Mais pour citer Lerita Mitsuko, les histoires d'amour finissent mal en général. Bonjour Laetitia.
Bonjour Judith.
Ça va bien aujourd'hui ?
Je vais très bien et toi ?
Ça va très bien. Merci. Fin du monde, fin du monde, fin d'un monde. Nous étions particulièrement inspirés par ce sujet. Pas du tout parce que nous avions eu un séminaire consacré à la question au semestre précédent, hein, pas du tout. Toujours est-il que le sujet a le mérite d'être extrêmement riche puisqu'il peut recouvrir de nombreuses thématiques. Finalement, c'est quoi une fin du monde ? Qu'est-ce que la fin ? Qu'est-ce que le terme de monde peut recouvrir ? Il suffit de voir le succès du récent film Don't Look Up pour voir que le sujet de la fin est encore et toujours vecteur d'interprétation et de représentation multiple. Dans les arts, en rap ou en littérature, cette fin peut être politique, sentimentale, sociale ou plus traditionnellement apocalyptique. Ce que ces fins ont à nous raconter, c'est que la plupart, et je dis bien la plupart du temps, elles sont la promesse d'un début. Et donc, elles sont porteuses d'espérance et de renouveau. Bon, pas dans tous les cas cependant, nous le verrons. À travers des œuvres aussi éclectiques que celles de Lalo, de Stephen Zweig, de Fritz Corleone, de Maurice Condé ou de Cormac McCarthy, nous verrons comment les artistes illustrent cette idée de fin. Évidemment, cette anthologie ne se prétend pas exhaustive et souhaite mettre en avant des artistes et ce que représente pour eux cette fin du monde, cette fin de monde ou cette fin d'un monde. Laetitia, pardon, c'est toi qui ouvre le bal. De quoi est-ce que tu vas nous parler ?
Alors, on va commencer par la fin du monde au sens apocalyptique du terme. Donc, si on veut un véritable exemple de la fin du monde, c'est vers le collectif 667 qu'il faut se tourner. Donc, le 667, c'est un collectif underground assez sectaire qui comporte une vingtaine de membres, dont Fritz Corleone, qui est le plus médiatisé aujourd'hui et qui fait le plus de feats en dehors du collectif, parce que oui, ils sont tellement sectaires qu'ils font des feats seulement entre eux la plupart du temps.
D'accord.
Ils sont unis par la foi bien plus que la musique, et la légende raconte que le collectif s'appellerait 667 pour montrer que les membres sont au-dessus du diable grâce à la foi. C'est dire le niveau des mecs.
Effectivement.
La principale matière pour leurs textes sont la drogue, le complot et l'argent. D'ailleurs, les références sont compréhensibles avec des recherches très poussées seulement. Elles sont entourées de figures de style plus nombreuses les unes que les autres. Il faut littéralement décrypter les textes pour trouver et comprendre les références. Donc, dans la lignée des récits de fin du monde au sens apocalyptique du terme, je ne peux pas passer à côté de l'album FDT de Fritz Corleone, sorti en 2016. Donc, c'est un acronyme qui signifie littéralement fin des temps, donc on est complètement dans le sujet, il n'y a pas de problème. L'album s'inscrit dans les œuvres eschatologiques. Est-ce que je prononce bien ?
Je crois que c'est eschatologique.
Eschatologique, soit des œuvres dont le discours porte sur la fin du monde ou la fin des temps. Donc si vous prenez le temps d'aller regarder la pochette de l'album FDT, vous remarquerez qu'à la place des noms de morceaux derrière le CD, enfin le boîtier, c'est la fin du monde telle que l'islam la conçoit, qui est détaillée en 10 points. Donc les références sont parsemées tout au long de l'album, en suivant la même méthode que le 667. Il faut chercher. Et bien, je vais vous laisser chercher avec un premier morceau, et tout de suite, on s'écoute Madara.
J'suis dans le lin, j'vois en slow-mo comme Max. J'glisse, j'vois la prod comme Nax. Référence, définissance comme Axe. En soum-soum, j'les repère comme Sonar. J'veux les sous comme Solar. Les grailles en 2-2 comme Fola. Équipe. Sous-coucou, j'arrive avec Kaki. J'arrive avec Seb, j'arrive avec Paki. FIFA 16, mets des cartouches avec Raki. Gardien, caca en soute et dans la cabine. Caca et soupe, j'suis dans la cabine. Au au-dessus d'eux comme les nuages négros. Viens qu'on se laissons sur le nuage négro. Je roule un blunt, je mets de la CP, je mets du H négro. Comme un gaulois, j'ai ma potion négro. Tu veux t'inscrire, t'as pas de notion négro. Gadéen, SO Guy Georges, dis-moi pourquoi tu rappes comme la caution négro. Moi c'est que t'arrives, dégage, bouge, tes sons sont basiques comme un PH12. Dans la défense comme Sergio Ramos, négro les ballons, je les dégage tous. Équipe, je mets des passements de jambes et des crochets. Plus d'essence qu'un groupe électrogène, gardien. Shenzhen négro, j'arrive Galsen comme Badara. Dans l'ombre avec mes ninjas négro, complote comme Madara. J'applique l'art de la guerre comme un grand général. Bientôt noir sur noir, berline comme agent fédéral. Yo splissé comme Jérémy Lin. Vision, slow motion, CSSO, Jérémy Lin. Gardien. Ils rappent comme des enfants, j'fume ma gain, j'vais à la boutique, j'achète vos flots avec des 100 francs. Équipe,
Shenzhen négro, j'arrive Galsen comme Badara.
Et c'était Madara de Freeze Corleone. Donc effectivement, une vision de fin du monde quand même assez sombre, ou en tout cas matinée effectivement de cet aspect très religieux. Nous y reviendrons. Alors moi, je vais parler d'une fin beaucoup plus symbolique, hein, beaucoup moins... beaucoup moins apocalyptique que celle de Freeze Corleone. Je vais vous parler de Maryse Condé. Donc a priori, rien à voir avec le sujet, mais vous allez voir qu'on peut faire des liens. Elle a écrit un livre qui s'appelle « La vie sans phare », où elle raconte ses années africaines au début des années 60. Donc Maryse Condé, pour vous faire un rapide topo, est née en Guadeloupe en 1937 et elle arrive en France dans les années 50 pour y étudier. Elle fréquente des intellectuels militants en faveur de l'indépendance des anciennes colonies françaises ou plus largement des militants antiracistes. Professeure de français, elle est envoyée en poste dans différents pays d'Afrique, en Guinée, au Ghana, en Côte d'Ivoire et aussi au Sénégal. Elle y arrive en plein pendant les revendications indépendantistes. En Guinée, où elle atterrit en 1961, elle découvre un pays indépendant depuis 1958, donc assez récemment, hein, dirigé par Sékou Touré. Ce dernier est très proche des pays communistes du bloc de l'Est, étant à diriger son pays de cette manière, communisto-autoritaire. D'aucuns diraient que c'est un peu pléonasmique, mais bon. Voilà. Maryse Condé vit en direct la fin d'un monde, hein, celui d'une Afrique colonisée, et qui cherche désormais à obtenir son indépendance. Elle assiste à la fin d'un monde, celui des empires coloniaux, où les Français, mais pas que, voyaient ces colonies comme des extensions du pays. Enfin, au sens métropolitain. J'espère que Jean-Michel Blanquer ne nous écoute pas, hein, il trouverait ça sûrement trop woke comme propos. Mais bon, là, il a d'autres problèmes. Bref, la Guinée et certaines régions d'Afrique se métamorphosent, du moins politiquement, sous les yeux de l'autrice qui relate cela dans La vie sans phare. Métamorphose pas toujours positive, hein, Sékou Touré était particulièrement autoritaire et n'hésitait pas à faire exécuter ses adversaires politiques. Entre files d'attente, nourriture rationnée et opposition muselée, les lendemains des Guinéens ne chantent pas encore. Comme l'autrice le relate, les précieuses denrées alimentaires s'échangeaient sous le manteau parce que la pratique du troc était interdite, soi-disant pour décourager le marché noir. Elle est également témoin d'une répression du corps enseignant orchestré par les autorités, nommé complot des enseignants, visant des élites intellectuelles du pays et la minorité Peul. Bref, la liesse de l'indépendance a laissé place à l'amertume d'un régime répressif opportuniste, dans lequel les Guinées en tout cas. C'est ça aussi une fin de monde, c'est en espérer un meilleur, mais ne pas être toujours satisfait. Un peu comme le nouveau monde post-Covid dont on nous parle et qui ne semble pas franchement mieux que l'ancien. Donc voilà, c'est une vision de fin du monde, somme toute assez, assez symbolique. On n'est pas là avec de la destruction.
Non, mais c'est nourri par l'espoir aussi. Voilà, c'est ça. Aussi.
Oui, tout à fait. Oui, il y a beaucoup d'espoir, hein, et beaucoup d'engagement et un espèce de mouvement comme ça de progrès, mais qui finalement
n'aboutit pas vraiment. Hein.
Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, c'est un livre que tu as lu aussi.
Oui.
Oui. Bon, on a dû le lire pour un séminaire en fait. Hein, voilà. On spoil, mais voilà.
Bon, on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a sous le coude.
Ouais. Donc, je crois que tu vas nous parler de quelque chose complètement assez différent, comme d'habitude. En fait,
oui, hein, finalement.
On aime faire des choses assez différentes.
Je vais vous parler du rappeur Yuzma, qui est un rappeur originaire de Perpignan. Donc, on le surnomme parfois le rappeur au visage bandé, puisque, et vous ne l'auriez jamais deviné tout seul, il s'expose sur la scène publique avec un bandage sur le visage. Donc c'est un tout jeune rappeur, ses débuts datent de 2019 avec un premier EP intitulé Brouillon Zéro. Enfin... Je devrais plutôt dire que c'était un jeune rappeur. En effet, Yuzma a récemment annoncé la fin de sa carrière, donc le 9 septembre 2021, avec le morceau La Dernière de 9 minutes, qui n'est pas sans rappeler celui de Diams en 2014, si c'était le dernier, de presque 11 minutes, et qui a signé la fin de sa carrière dans le rap. Mais pourquoi arrêter le rap après des débuts aussi prometteurs ? Eh bien, Yuzma a été la cible de harcèlement sur Twitter en 2020, en cause des propos déplacés qu'il aurait tenus à au moins une mineure de 17 ans, alors qu'il en avait 22. Le rappeur s'est publiquement excusé pour son comportement sur son compte Twitter, mais d'autres témoignages finissent par s'ajouter petit à petit, et c'en était fini pour lui. Il a accusé une vague de cyberharcèlement avant que la cancel culture n'ait raison de lui et de sa carrière. Donc La Dernière, c'est le storytelling d'une ascension arrêtée en plein vol et les conséquences de cette chute. On sent que le rappeur est très amer tout au long du morceau et pour le citer, ils ont détruit ma vie en faisant ça pour le buzz. Donc Yuzma a-t-il été victime du célèbre tribunal de Twitter ou est-il effectivement responsable des accusations qui lui sont portées ? Le mystère planera indéfiniment. Yuzma a fait le choix de mettre un terme à sa carrière. Pour lui, c'est la fin du monde de la musique.
D'accord, bon, effectivement, c'est un sujet qui pose question, surtout dans le monde dans lequel on vit. Alors, de mon côté, je vais parler de quelque chose qui pourrait s'en rapprocher, hein, donc pareil, une ascension arrêtée en plein vol, mais pour des raisons tout à fait différentes, puisque je vais vous parler de Stefan Zweig et de son monde d'hier. Donc voilà, là, c'est un peu comme Marie Scondé, hein, c'est une fin un peu politique, et en même temps, ça va au-delà de ça. Donc Stefan Zweig, c'est un écrivain autrichien, né en 1881 à Vienne et mort en 1942 à Petropolis au Brésil. Et Le Monde d'hier a été publié en 1943. Et là, si vous avez bien suivi, vous vous dites que c'est bizarre qu'un auteur mort en 1942 fasse publier un livre en 1943. Mais c'est normal, Le Monde d'hier a été publié à titre posthume, un an donc après le suicide de Stefan Zweig. Il a publié des ouvrages que vous connaissez sûrement, hein, comme Le joueur d'échecs, 24 heures dans la vie d'une femme ou encore La confusion des sentiments. Vous vous doutez bien que publier un essai intitulé Le Monde d'hier en 1943 en plein pendant la Seconde Guerre mondiale n'a rien d'anodin. Pour vous donner le contexte, Stefan Zweig s'exile au Brésil à la fin des années 30 puisqu'il est juif. De là, il assiste à la lente agonie de l'Europe, amorcée depuis la montée des fascismes. Il compose son texte les deux années précédant sa mort en se fondant sur ses souvenirs. Le sous-titre du livre est d'ailleurs Souvenirs d'un Européen. C'est un essai qui se focalise sur l'effondrement de l'Europe des savoirs et des lumières, en ayant pour point de départ l'enfance de l'auteur à Vienne. Les premiers chapitres de cet ouvrage, qui parle pourtant de guerre, sont consacrés à sa jeunesse. Il parle de son expérience pour engager des réflexions plus riches et plus générales sur l'éducation ou la sexualité. Il permet également de montrer le bouillonnement culturel et scientifique qu'incarnait Vienne à l'orée du XXe siècle. Puis, plus les chapitres passent, plus on sent les forces de l'Europe décliner, ou en tout cas, d'autres forces arrivent, mais pas les bonnes. Première guerre mondiale, crise économique. Pour illustrer cette dimension crépusculaire, l'antépénultième chapitre s'intitule « Coucher de soleil », donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Stefan Zweig raconte donc la fin d'un monde, de son monde, celui qu'il a connu. C'est la guerre en Europe et la plupart des grandes puissances sont incarnées par des régimes totalitaires, reléguant la culture, le savoir, l'humanisme aux oubliettes. Avec le monde d'hier, il nous partage vraiment la détresse d'un homme qui voit sa civilisation disparaître avec grand fracas, ce qui lui sera fatal d'ailleurs, hein, puisqu'il se suicide en 1942. Dans une lettre, il justifie son geste en insistant sur le fait qu'il ne se sent à sa place nulle part, lui qui a dû s'exiler puisque l'on brûlait ses œuvres en Europe, et qui était parfois perçu au gré de ses voyages américains comme un traître allemand. Bref, le monde d'hier, c'est la fin d'un monde, celui qui a accueilli l'auteur et dont l'exclusion a provoqué sa propre fin. Donc voilà, c'est pas très gai, mais voilà, c'est vraiment un livre que je vous invite à lire. Hein. J'ai une bonne amie, c'est son livre préféré, elle me dit toujours... Je lis trois phrases et je pleure parce que c'est trop triste. Donc voilà, c'est pas très joyeux, mais je pense que c'est un livre assez nécessaire. Donc voilà.
Ça me permet de faire une petite transition avec le meilleur pour la fin, bien sûr. Hein, je vais pas me cacher que je suis pas du tout objective et que voilà, Lelo est un de mes rappeurs préférés. Mais sur cette notion de pas trouver sa place, d'être un peu dans un entre-deux tout le temps, c'est exactement la thématique de L'étrange histoire de Monsieur Anderson. Le dernier album de Lelo qui est sorti donc le 16 juillet 2021, de l'année dernière déjà. Donc cet été, Lelo nous présentait son dernier projet, L'étrange histoire de Monsieur Anderson. Et quel projet ! Dans cet album, Lelo a poussé encore plus loin le principe novateur qu'il avait entamé avec Trinity début 2020. Donc pour resituer tout le monde, Trinity est le projet qui a propulsé Lelo sur la scène du rap français, très clairement. L'album comporte 22 titres, dont certains d'entre eux sont des interludes qui rythment l'histoire que nous raconte Lelo. Donc ces interludes sont caractérisées par une voix robotique féminine, soit la machine dans laquelle se trouve Lelo tout au long de l'album, et qui n'est autre qu'un simulateur d'émotions, dont Lelo tombe amoureux, et qui finit par ne plus fonctionner parce que Lelo en veut toujours plus. Trinity, c'est la première passerelle entre le rap et la fiction audio, selon moi. Au moins, selon moi. Trinity, c'est la fin de la galère pour Lelo, le succès rencontré vient changer sa vie. Ça, c'était pour le contexte. On va revenir à l'étrange histoire de Monsieur Anderson, mais avant de développer, je vous propose d'écouter ce qui s'apparente à l'introduction de l'album, et c'est parti pour Un rêve étrange.
J'allume tout dans le noir, personne n'anticipe. Serviette Nike, masqué tous les soirs, comme un scientifique. Comment faire? Personne va nous dire. Pas de passe décisive, nique sa mère, tout sera magnifique. Avant tout, frère, je veux être libre. Faire du bif, faire des liasses, toute ma vie, me mettre high, maladif. Comme le type qui a toi bloqué sur gâchette automatique. Ça marche pas, je réessaye, je peux dormir dans le stand de tir. Lelo, si si mec, si funèbre. Comme la mort, comme l'assassinat Jesse James. Je fais des sons, c'est le brouillard, pas les holidays. Ok, concu tous les joueurs comme si j'étais dans un Sofitel. Y'a plus de merci, y'a plus de pitié. J'vois tout plein de copies supliquées. J'dois toujours rester au-dessus, mais quand des fois j'me sens plus pissé, j'rappelle une pétasse du lycée. Back to 2010, celle qui méprisait. Quel retournement de veste, maintenant je ramène nouveau. J'allume tout en noir, personne n'anticipe. Serviette Nike, masqué tous les soirs, comme un scientifique. Comment faire? Personne va nous dire. Pas de passe décisif, nique sa mère, tout sera magnifique.
Donc c'était Un rêve étrange de Lelo. Donc le projet est tout aussi porté sur la notion d'histoire à raconter, en plus audacieux, en mieux fait et en mieux de manière générale. Je trouve qu'il a vraiment poussé le concept jusqu'au bout et que c'est très très réussi. Donc Lelo ne se contente plus seulement des interludes, il façonne les morceaux de façon à ce que tout s'enchaîne sans discontinuité. Par exemple, vous pouvez adorer un morceau en particulier et râler quand il se termine brusquement parce que la suite se trouve dans le début du morceau suivant. Donc par ailleurs, Lelo le dit lui-même dans ses interviews, son album n'est pas écouté en aléatoire et il ne fait pas de la musique pour être mis en playlist, donc c'est plutôt clair.
Dans l'étrange histoire de Monsieur Anderson, Lelo raconte l'histoire de ses débuts dans le rap game. L'histoire commence en 2012. Lelo inquiétait ses proches car il n'avait aucun autre projet d'avenir que celui de faire de la musique, et ça ne marchait pas fort. Il n'était pas très bien entouré, passait ses soirées à chercher des soirées, à boire, à fumer avec sa bande qui ne croit pas du tout en lui. Il n'avait pas d'argent et a priori pas d'avenir. Mais Lelo n'a jamais arrêté de croire en lui et en ses particularités. Il décide de tout quitter pour travailler à fond son rêve de devenir artiste jusqu'à ce que ça fonctionne. Pari risqué mais gagnant. Bingo. Désormais, Lelo est un rappeur reconnu, c'est un artiste dans son sens le plus pur, qui a joué avec les codes du genre pour proposer un style novateur et unique. La galère est terminée, c'est un nouveau monde qui s'ouvre sous ses pieds. Il est désormais entouré de personnes qui croient en lui, qui l'entraînent dans une énergie propice au travail et à l'émulation artistique, et qui l'aident à se hisser au sommet. Donc, pour terminer sur Lelo, je vous propose d'écouter un extrait plutôt significatif avant de passer à toute autre chose, n'est-ce pas, Judith ?
Oui.
Donc, le morceau illustre très bien le Lelo dans l'ombre avant son succès et l'esprit du projet en général. Je vous laisse sur Voir le monde brûler.
Toi qui traînes la night, toi qui cherches encore tes limites, quand t'écoutes cette vibe. Oublie tout, tu veux te laisser vivre,
Tu mélanges la frappe et l'alcool. Puis ça y est, tous ces fruits, tout part dans le décor. T'en as rien à battre de leur code. Toi tu fais juste brûler le monde avec tes balles. C'était genre de fête là, t'avais pas mal zette là. T'avais même un frère qui avait sous-loué le dernier S là. Il t'avait dit, hey, viens ce soir, on se fait un vrai boy. Viens, on bouge en ville, viens, on vit, viens, on frit. Dors dans la night, boy de 23h. Bien sûr que le plan chauffe, bien sûr que t'avais rien à faire. Donc tu prends ton phone, tu regardes dans ton répertoire. Tu cherches 2-3 meufs aux mœurs légères qui pourraient se rappeler de toi.
Ouais, c'est bon, j'appelle.
Ouais, elle est trop classe.
Allô?
Ouais, bien encore.
Ouais, c'est qui?
C'est Jay là.
Ah, ouais, ça va?
Ça va, tranquille. Je suis avec. Et. Je voulais savoir si on peut passer chez toi là.
C'est compliqué là.
Arrête, j'entends plein de bruit derrière toi là.
Ouais, mais là c'est vraiment pas l'ambiance.
Dix minutes plus tard, t'étais déjà en bas. T'entendais du son, mais le son, lui, t'entendait pas. Avec ta main droite, tu bousillais le bouton de l'interphone. Avec ta main gauche, tu bousillais avec la taille de rhum. Et t'es resté ivre, à faire les 100 pas autour de la porte en attendant qu'elle s'ouvre. T'en voulais au monde entier l'impression qu'il veut te contredire. Qui t'a jamais bien compris. Toi, t'attendais juste un signe, juste un défouloir. Il a apparu sous la forme d'un mec normal, en imperméable. Il payait pas de mine, il y était pour rien, mais toi, tu l'as dit.
Eh, hey, toi là.
Quoi, moi?
Je fais le boule. T'étais à la soirée.
Bien sûr, il y était.
Mais je vous connais même.
Tiens là, fils de.
Ouais. Oh, c'est
quoi ça? C'est quoi là?
Je t'ai plus dit rien.
Ah,
t'as donc brûlé, moi.
Bien sûr, putain.
Allez, c'est bon, les gars.
Mais comment ça fait
ça? Ça arrive. Ta gueule, toi. Ça fait comme vous invitez à ta soirée aussi.
Mais mon gueule.
Tu mélanges la frappe et l'alcool. Ça y est, tous ces fruits, tout part dans le décor. T'en as rien à battre de leur code. Toi, tu fais si.
Là, te voilà, toi.
Et t'es rentré tard parce que t'étais fonce, parce que t'avais honte, parce que t'avais les sapes sales et les cieux rouges. T'as croisé ta mère, elle te parle tes potes, tes bulletins d'école. Et vu que t'es à l'ouest, tu la regardes chelou.
Ton
esquive, tu vas dans ta chambre, t'essayes de faire le vide, t'essayes de faire le change entre le bien et le mal. Mais bon, ça te monte à la tête, petit pétard à la fenêtre juste pour décompresser.
Ça pue ton truc, ça pue. Hey, où tu vas là? Où tu vas?
Quand tu te regardes dans le miroir, vu que tu te reconnais pas, tu dis que c'est la vie et que la vie ça doit être une pétasse qui t'a laissé en plein et qui t'a même pas donné tes chances. Et puis t'as chaud, comme si c'était pas assez, voilà que t'as down dog. T'as l'impression qu'il y a le monde entier qui veut ta peau. L'impression que t'es solo dans l'océan sur un râteau. Mais tu te regardes dans le miroir et tu dis que ça sera toi, un négro, ça sera pas un autre.
Bon, qu'est-ce qu'il y a maintenant?
Quoi, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Mais t'es complètement défoncé.
Ouais, et alors?
Et alors, je t'ai porté 9 mois dans mon ventre. Personne ne te connaît mieux que moi.
Doucement, doucement.
Je peux dire un mot.
Arrête, putain.
Non, j'arrêterai.
Tu sais quoi? Je crois que je vais partir, c'est mieux de moi.
Mais tu pars et tu vas où? Tu vas où? Hein?
Wow.
Tu vas
où? Quand tu traînes la night, avoue que tu penses à deux, trois trucs qui sont lointains mais qui rongent ton âme. Comme la fois où t'as hagaré, mec, comme la fois où t'as mis ta mère tellement mal. T'étais tellement high, t'entendais pas l'ange pleurer tout au fond de toi.
Oui, c'est ça, vas-y, va-t'en. Et reviens pas, si tu pars, c'est pour la vie. On n'est pas chez les blancs ici. Tu nous fais honte. Mais regarde-toi là. Mais ça va nulle part, ton truc.
Alors donc c'était Lélo avec le titre
Voir le monde brûler.
Voir le monde brûler. Et bien justement, ça me fait une transition toute trouvée avec ce que j'avais soigneusement gardé pour la fin. Donc j'avais gardé une fin du monde, une vraie, hein, à base de cataclysmes, d'hiver nucléaire et de cannibales. Et la boucle est bouclée aussi avec Freeze Corleone pour le coup, hein, parce que là il y a un côté vraiment pour le coup très...
Ouverture et fermeture sur l'apocalypse.
Voilà,
c'est
exactement. Donc cette fin du monde, c'est celle qui est dépeinte dans La Route de Cormac McCarthy, roman américain publié en 2006 puis adapté en film en 2009, hein, par John Hillcoat avec Viggo Mortensen. Nous suivons un père et son fils d'une dizaine d'années dans un monde en ruine. On ne sait pas très bien où se situe l'histoire, hein, même si certains indices nous laissent penser qu'elle pourrait se dérouler aux États-Unis. Les deux personnages doivent se rendre dans le sud. On ne sait pas bien pourquoi, hein, toujours est-il que ce lieu incarne leur seul espoir. On ne sait pas non plus ce qui a provoqué cette fin du monde, même si la thèse d'un hiver nucléaire semble plausible. Donc la faune et la flore ont été réduites à néant et tout est recouvert de cendres. Le ciel est perpétuellement gris. Donc voilà, il n'y a plus de ville. Tout a été détruit par les flammes, par des cataclysmes. Une fin du monde, une vraie, hein, type 2012 et tous les films catastrophes. Cette apocalypse s'est déroulée 10 ans avant la tenue de l'histoire. Depuis, tout a été pillé et détruit. Le père et son fils, dont les seules affaires tiennent dans un caddie de supermarché, doivent tracer leur route, tout en évitant des espèces de cannibales réunis en une étrange secte. Avec ce livre, l'auteur nous offre une représentation de fin du monde assez traditionnelle, avec une nature stérile, des personnages luttant pour leur survie et une disparition de l'autorité suprême, hein, qu'elle soit incarnée par un dieu ou par un chef d'État. Ici, la fin du monde n'est pas vraiment synonyme de promesse ou de renouveau, hein, mais plutôt comme étant un état inextricable duquel on ne peut sortir vivant. C'est une lecture qui est assez glaçante, puisque l'on sait que quelle que soit la décision que prend le personnage, ça se finira mal pour lui, puisqu'il n'y a pas vraiment de lumière au bout du tunnel. Ce roman aborde tout de même la question de Dieu. Effectivement, dans la tradition judéo-chrétienne, Dieu est celui par lequel la fin arrive, avec en perspective le jugement dernier et l'apocalypse. Dans La Route, les personnages invectivent un dieu absent, ce qui rend l'atmosphère du récit encore plus anxiogène. Mais en tout cas, quand on pense fin du monde, c'est vraiment ce type de récit qui nous vient à l'esprit. Souvent pour la dimension spectaculaire, certes, mais aussi pour cet aspect effrayant et sans espoir qui contient, j'imagine, quelque chose de très cathartique pour nous, pauvres êtres mortels. Livre que tu as aussi lu, je crois.
Oui, j'ai lu, mais j'étais très triste parce que le petit garçon, il me faisait vraiment beaucoup de peine à chaque fois qu'il posait des questions, quand est-ce qu'on va mourir et tout. Elle est lourde quand même comme lecture.
Oui, effectivement, j'ai trouvé aussi. C'est pas un livre que j'ai particulièrement adoré, parce que voilà.
Il m'a beaucoup ému.
Voilà, ouais. Parce que le thème est effectivement très lourd, mais je trouve que c'est un livre vraiment qui marque et qui racle bien profond en nous.
Ouais, on a la vision de ce petit garçon qui est là, qui comprend pas tout ce qui se passe, et son père qui veut pas trop lui répondre, qui lui dit faut continuer, mais il lui donne pas trop de raisons, et le petit il est complètement
ça.
Perdu. Non, mais j'ai trouvé
ça
très triste.
En fait, cet enfant, bon, c'est dit dans le livre, en fait, hein, il est né au tout début de cet apocalypse, donc en fait, c'est le monde détruit, en fait, c'est celui qu'il connaît. Et je trouve qu'en fait, c'est un livre qui pose beaucoup la question de l'identification, parce que d'un côté, on va s'identifier à ce petit garçon qui pose en fait des questions des questions d'enfant, hein, avec la période des pourquoi, pourquoi on vit, pourquoi on meurt, c'est quoi, pourquoi on meurt, c'est quoi Dieu, c'est quoi la mort. Et donc, c'est des questions que finalement, on va se poser tout au long de notre vie. Donc, on s'identifie à ce petit garçon, même si parfois, ça, sa naïveté peut énerver. Et en même temps, on s'identifie à ce père qui est complètement démuni et qui est assez, parfois...
C'est sec.
Qui c'est, est, oui, c'est ouais. ça, qui c'est assez âpre, hein, qui est parfois un peu désincarné dans cette espèce d'autorité, qui a du mal finalement à avoir cette espèce de rôle de père dans l'autorité suprême, puisque lui aussi...
c'est la priorité, quoi.
Oui, c'est ça. C'est vraiment un livre vraiment très, très sombre et en même temps doté d'une certaine profondeur métaphysique. Et voilà, et je pense que... Bon, je n'ai pas vu le film.
Moi non plus.
Mais je pense qu'il est très bien. Voilà, avec Viggo Mortensen... voilà, qui est un très bon acteur, hein, donc je pense qu'on peut y aller. L'émission touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Tom, à la régie. Voilà, donc on espère que peut-être que l'émission suivante aurait peut-être un thème un petit peu plus réjouissant, on verra.
C'est pas dans les pots les plus heureux qu'on fait les meilleures soupes. Ça, cette expression n'a strictement aucun sens.
D'accord, Laetitia, d'accord. très bien. Alors, nous nous quittons sur un titre fort à propos, Monde Nouveau de Feu Chatterton. Merci et à la fois prochaine.
Souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié épaillé. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, le trait d'esprit. Serveur central. Sous nos yeux comme une publicité qui nous masque le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central. Se prendre dans les bras, s'attraper dans les bras.